Je dois m'excuser tout d'abord pour vous faire cette communication en français, mais je crois que des textes italiens sont à votre disposition et par conséquent, il vous est possible de peut-être mieux suivre. Il est désormais admis en Italie que le XVIIIe siècle, en particulier le temps des pontificats de Clément XI et surtout de Benoît XIV, fut une grande période de l'apostolat dans les campagnes et d'élan de la vie religieuse dans les régions qui jusqu'ici avaient été délaissées. Les travaux récents d'historiens tels que Mario Rosa, que je salue ici, Luigi Fiorani, Stefania Nanni et Paola Vismara viennent de le montrer avec éclat. Ce jugement est loin d'être partagé par les historiens français qui, en règle générale, à la suite des ouvrages anciens de Paul Hazard, puis beaucoup plus récents de Michel Vauvel, ont tendance à considérer le siècle des Lumières comme le temps où le détachement à l'égard de la religion devient de plus en plus massif, jusqu'à apparaître l'aube de la déchristianisation accélérée à l'époque révolutionnaire. Ayant pour ma part travaillé de longues années dans les pays rhénans et germaniques, j'ai pu constater un renouveau religieux de grande ampleur dans les régions du centre de l'Europe, comparable à ce qui est montré aujourd'hui pour l'Italie du Nord, du Centre ou du Sud. Quant à la France, je me demande si les jugements un peu trop abrupts qui ont été exprimés ne doivent pas être nuancés à la lumière de ce que nous observons ailleurs en Europe. Car une double constatation peut être faite qui explique peut-être les appréciations divergentes des historiens. Si la religion connaît une nouvelle vigueur, elle est aussi en profonde mutation. Le christianisme vécu par les populations européennes dans les années 1800 est devenu fort différent de celui des années 1700. Ce fut cette transformation interne que j'ai tenté d'exposer dans mon dernier livre, La religion des pauvres, et en insistant davantage sur les campagnes, parce que ce monde du XVIIIe siècle est encore un monde en grande partie des campagnes et un monde rural. Alphonse Dupron, dans son grand livre intitulé « Du sacré », qui a été traduit en italien par la regrettée Carla Russo, a fort bien montré que le fait religieux s'appréhende d'abord en termes d'espace. Or, ce fut justement au XVIIIe siècle que celui-ci prit sa forme définitive grâce à l'achèvement de la construction paroissiale. Certes, il y a des exceptions, c'est le cas en particulier des églises ricettizie ou fondées, qui ont été étudiées dans le basilicat par M. Gabriele De Rosa. Ces églises qui distinguent un certain nombre de familles participantes dont qui fournissent des prêtres et aussi des familles non participantes et aussi des non participants qui constituent une sorte de prolétariat d'ecclésiastiques qui s'occupent du travail pastoral sans véritablement participer au bien de l'Église. nous trouvons une situation dans un monde totalement différent qui, au fond, se rapproche de celle de l'Italie du Sud. Je veux parler des pays de mission de la Bohême, de la Silésie, de la Poméranie ou de la Lituanie, où nous trouvons facilement encore au XVIIIe siècle un missionnaire qui s'occupe de 100, de 200 paroisses dans ces zones qui sont celles des marges de la chrétienté. Mais dans l'ensemble, l'Europe de l'Ouest et du Centre est une Europe qui connaît la structuration en paroisse au cours du XVIIIe siècle et où cette paroisse devient de plus en plus le cadre de la vie religieuse. Certes, cela ne se fait pas sans tiraillement, cela ne se fait pas sans peine. Tiraillement et opposition entre l'administration, l'évêque, et aussi les droits des décimateurs ou des collateurs. Également, le problème de la démographie, le nombre croissant de gens, la population qui augmente et qui réclame un curé. Et c'est dans cette atmosphère conflictuelle que se constitue la paroisse, alors que quelquefois, d'ailleurs, un certain nombre de curés tiennent aux anciens cadres. C'est le moment aussi où l'on va voir prendre toute leur force, bien sûr ils existaient auparavant, un certain nombre d'institutions dont la vigueur est souvent très intéressante à l'aube des temps contemporains. Je pense en particulier à la fabrique, qui est l'organisme temporel de l'Église et qui est en quelque sorte le représentant de la communauté rurale. Cette communauté rurale qui se manifeste aussi dans la vie paroissiale, ne serait-ce que dans les processions, ces grandes processions qui font le tour de la paroisse et qui sont en quelque sorte le symbole même de la vie paroissiale, surtout au grand moment des fêtes liturgiques, ou aussi au moment tragique de la vie quotidienne en temps de sécheresse, en temps de maladie, où des processions sont organisées justement pour obtenir un meilleur temps ou des conditions plus favorables pour les paysans. Les croix, les chapelles rythment en quelque sorte cet espace paroissial. Et il est intéressant dans les enquêtes que l'on peut faire aujourd'hui sur l'espace de ces paroisses de voir combien sont nombreuses les croix ou les petites chapelles, y compris même dédiées à des saints thérapiques, qui ont été construites au XVIIIe siècle, voire même très souvent dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Enfin, structuration de la paroisse, et on pourrait dire apogée de la paroisse, grâce à un meilleur clergé. C'est le moment où la formation du clergé ne pose plus problème. Le séminaire diocésain est devenu la règle, en particulier dans l'archidiocèse de Milan, où vous êtes particulièrement gâté, puisque au XVIIIe siècle, d'après les études de Paola Wismara, 7 séminaires se préoccupaient de la formation du clergé diocésain. Le cursus des études aussi s'est allongé. Le séminaire n'est pas tout. À la fin du XVIIe siècle, dans les visites pastorales des évêques, on s'aperçoit qu'un bon nombre de curés sont passés par le séminaire, mais la plupart ne sont restés que 6, 7 ou 8 mois au séminaire. La grande différence, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, ils sont restés en général 4 ans. Et cela fait tout le changement entre le clergé de la fin du XVIIe siècle et celui que l'on va commencer à appeler le clergé des bons curés de la fin du XVIIIe. Du bon curé dont des représentants éminents vont se retrouver au moment de la Révolution française, quelqu'un comme l'abbé Grégoire par exemple, curé d'une paroisse de 200 habitants, pas, va jouer un rôle au cours de la Révolution française tout à fait considérable. On trouve dans des paroisses minuscules des docteurs en théologie, ce qui était absolument impensable un siècle plus tôt. Ces curés vont aussi avoir, vous en trouvez aussi un témoignage dans la littérature du temps. Je pense en particulier au roman de Rétif de la Bretonne, La vie de mon père, ou encore La paysanne pervertie, où vous avez bon nombre d'exemples de bons curés. Ces curés vont avoir à cœur de stimuler la vie religieuse, stimuler sous la forme d'associations de piété, dont les plus célèbres sont les confréries, qui se multiplient aussi au cours du XVIIIe siècle. L'étude toute récente que j'ai encore pu voir aujourd'hui en vitrine dans une de vos grandes librairies de Marie-Hélène Fauchelet-Chopard sur l'espace et le sacré en Provence en offre un très bon exemple. Marie-Hélène Fauchelet-Chopard a justement étudié ce phénomène des confréries à partir des bulles d'indulgence. Des brèves d'indulgence qui ont été demandées et accordées par les archiconfréries romaines et qui permet par conséquent de prendre en quelque sorte la température du mouvement des confréries au cours du XVIIIe siècle. Or, elle s'aperçoit qu'au moins la première moitié du XVIIIe siècle, pour l'Italie et pour toute l'Europe centrale, et même une grande partie de l'Europe de l'Ouest, est un temps particulièrement fort. Je serais tenté aussi, par les études que j'ai menées en Lorraine et en Alsace, de dire qu'il en va de même pour ces régions. Les années 1680-1750 furent celles aussi, à côté donc du phénomène paroissial que je viens rapidement d'évoquer, le moment d'un sommet dans l'activité des missions. Missions intérieures, à travers donc toute l'Europe, et plus particulièrement, missions des campagnes. Le problème se pose, savoir pourquoi, au fond, on observe ce mouvement d'élan missionnaire dans cette période relativement tardive. Bien sûr, la mission, elle est de tous les temps, elle est depuis les origines du christianisme. Mais comme le dit Pierre Chaunu, il y a des périodes de basses eaux et de hautes eaux. La période du premier XVIIIe siècle est une période de hautes eaux. Pourquoi ? À cause sans doute de l'influence de la papauté. Lorsque l'on étudie, par exemple, tout simplement les recueils des bulles de la propagation de la foi, collectée par De Martinis, on s'aperçoit de l'importance des recueils et des publications de bulles concernant les missions, l'activité missionnaire intérieure et extérieure, sous Clément XI et sous Benoît XIV. On voit même que déjà chez Benoît XIV, il y a aussi un esprit différence. C'est pas simplement la christianisation, et c'est ceci qui va nous mettre un peu sur la voie. Au fond, au XVIIIe siècle, il n'est plus question de christianisation. La christianisation, elle est faite, mais il est question, on pourrait plutôt dire, de spiritualisation, d'approfondissement d'un mouvement. Je prends au hasard un décret de Benoît XIV sur les chemins de croix. Comment on doit construire les chemins de croix. Naturellement, il est particulièrement tentant de mettre ceci en rapport avec le rôle des missionnaires qui ont insisté beaucoup sur les chemins de croix. Je pense en France à Louis-Marie Grignon de Montfort, avec ses fameux chemins de croix, dont le plus célèbre est celui de Pontchâteau, mais on pourrait dire autant pour, en Italie, Léonard de Port-Maurice, Porto Mauricio, et qui, dit-on, n'est-ce pas, aurait fait construire plus de 500 chemins de croix au cours de sa carrière de missionnaire. Nous sommes là devant un point fort de l'action missionnaire. Ces missionnaires, c'est naturellement la seconde raison. Ce sont les hommes de terrain qui prennent donc des initiatives sur place. Naturellement, l'Italie, une fois encore, est particulièrement bien placée depuis Paolo Signori, les deux, l'oncle et le neveu, jusqu'à Alphonse Liguori, en passant par Léonard de Port-Maurice ou Saint-Paul de la Croix. Des missionnaires qui ont tous œuvré dans les différentes régions de l'Italie et qui étaient tous soucieux autant de la vie spirituelle que de l'accomplissement des sacrements. Mais on peut aussi rechercher peut-être d'autres influences. Il n'est pas exclu que le politique ait joué aussi un rôle. Certains princes n'étaient pas indifférents au mouvement missionnaire. Ils y voyaient une façon de propager, à l'époque des Lumières, la culture dans les campagnes. Je pense, par exemple, pour la Lorraine d'où je viens, à un prince comme Stanislas Leszczynski, mais on pourrait en dire autant des ducs de Bavière. Et aussi, quelquefois, des prélats des Lumières, des hommes des Lumières, qui voyaient dans la mission, on dirait aujourd'hui, une forme d'acculturation des campagnes. Donc toutes ces raisons se combinent et font que quelquefois d'ailleurs les résultats pourront prendre un caractère un peu paradoxal suivant l'esprit principal qui a animé ces missions. Toujours est-il que les cartes que nous pouvons établir grâce aux archives centrales des ordres religieux nous montrent combien ce mouvement a été intense et, comme Alphonse Liguori le souhaitait, s'est étendu jusqu'au plus petit village. Avec comme consigne celle que Vincent de Paul donnait déjà au XVIIe siècle à ses missionnaires, remédier à l'ignorance et au dérèglement des pauvres gens des champs, et particulièrement aux grands défauts que la plupart avaient jusqu'alors commis dans leur confession ordinaire. C'est-à-dire, là, on retrouve l'objet qui est de remédier aux confessions sacrilèges. Mais, en fait, lorsque on examine ces récits de mission, on s'aperçoit qu'on trouve des véritables documents ethnographiques, ethnographiques d'une grande richesse quelquefois, sur ce qu'étaient les campagnes au début du XVIIIe siècle et qui nous offrent la possibilité de faire une étude comparée suivant que nous nous situons en Espagne ou en Poméranie. Je crois que peu de documents nous permettent ainsi une approche des campagnes et aussi de la, pas simplement sur le plan matériel, mais ce qu'était la vie religieuse et aussi la vie culturelle au sens large de culture au début du XVIIIe siècle. Certes, les récits sont quelquefois n'offre pas toute la richesse que nous souhaiterions. Nous ne sommes pas devant les tristes tropiques de Claude Lévi-Strauss ou dans des morceaux d'ethnographie souvent particulièrement croustillants. Le missionnaire, homme des villes, bien souvent apporte un regard critique. Il n'empêche que quelquefois des éléments de la vie quotidienne apparaissent. Ce qui apparaît, ce sont les maux dont souffre, du point de vue du missionnaire, le christianisme de campagne. L'abondance du blasphème, encore extrêmement répandu au XVIIIe siècle, des malédictions très répandues même à l'intérieur d'une même famille. Une mère de famille à l'égard de ses enfants trop nombreux à son gré. Les haines ancestrales entre familles, la magie, la sorcellerie, les superstitions diverses. Et il est intéressant de voir qu'à chaque mal se trouve un remède, appliqué un remède. Contre les blasphèmes et les malédictions, on les remplace par des prières. Des prières qui sont destinées justement à écarter ce mot, voire même à des confréries comme les confréries Saint-Isidore. Contre les haines ancestrales, les réconciliations publiques. On ne donne pas la communion générale, tant que les parents ne se sont pas réconciliés avec les enfants, tant que les familles ennemies ne se sont pas réconciliées. Cette cérémonie particulièrement émouvante avait lieu aussitôt avant la communion générale. Contre les superstitions, la magie, le renouvellement des vœux du baptême, solennellement fait par les adultes en procession. Et pour maintenir l'esprit de récollection, de renouveau de la confrérie, de la mission, eh bien, on termine en élevant une croix devant laquelle les habitants sont conviés à dire chaque soir leur prière et à faire leur examen de conscience, interne, pardon, public, leur examen de conscience. Alors, en adoptant cette ligne de conduite, les missionnaires étaient loin de considérer qu'ils étaient infidèles à leur devoir, l'instruction qu'ils devaient aux fidèles. Ils partaient donc de la situation concrète, ils partaient de ce qu'ils avaient observé, et ils utilisaient la méthode qui leur semblait la plus appropriée. Seulement très vite, ils se sont trouvés devant une alternative. Ou bien ils prenaient en compte ce qu'ils jugeaient positif dans le comportement religieux des fidèles. Et à ce moment-là, ils opéraient les corrections nécessaires. Cette stratégie conduisit un grand nombre à adopter à insister sur un certain nombre de pratiques de piété, la communion fréquente, la récitation du rosaire, le culte du Sacré-Cœur. C'est par exemple une conduite qui est adoptée par Louis-Marie Grignon de Montfort. Mais d'autres, au contraire, sont littéralement atterrés par l'ignorance des campagnes et considèrent que les maux dont souffrent les gens des campagnes viennent essentiellement de l'ignorance de la doctrine. Et à ce moment-là, ils vont changer les séances de mission en véritable cours intensif d'instruction religieuse. C'est ce qui va aboutir aux missions catéchétiques très développées en Europe centrale, lesquelles vont se transformer en confrérie de la doctrine chrétienne, très largement répandue depuis la Hongrie jusqu'aux Pays-Bas, c'est-à-dire jusqu'à la Belgique actuelle. Ces deux attitudes ont toutes les deux naturellement leur danger. La première attitude, en faisant en quelque sorte confiance à la religiosité des campagnes, c'est de couvrir du manteau de la religion certains comportements religieux qui n'ont qu'un rapport assez lointain avec le christianisme. Par exemple, un vicaire général du diocèse de Strasbourg, se trouvant un jour en forêt noire, est très surpris de s'apercevoir que les gens d'un village récitent le rosaire. C'est une très bonne pratique, mais ils le récitent non pas à l'église, mais chez eux. Et ils le récitent non pas dans leur chambre, mais avec les fenêtres ouvertes. Et ils le récitent non pas à voix douce et calme, mais en hurlant littéralement. Il est bien certain que le rosaire devenait ainsi une prière propitiatoire dont les vertus devaient s'étendre sur les champs sur lesquels il était dit. Et vous voyez par conséquent comment une dévotion qui était à l'origine une dévotion typique de la contre-réforme pouvait être détournée de son sens et de sa finalité par les paysans. Donc naturellement, il y avait de ce côté-là un danger. Mais si on était trop normatif, si on disait « ce sont des ignorants, il faut les instruire », le danger était non moins grave parce que on risquait de dégoûter de la religion un certain nombre de gens en insistant beaucoup trop sur le catéchisme que l'on apprenait un petit peu à la façon d'un code. Il faut savoir ceci et le connaître par cœur. On raconte d'ailleurs que dans les campagnes bavaroises, lorsque le missionnaire venait pour faire la mission catéchétique, les paysans essayaient de connaître auparavant les questions qui avaient été posées dans le village d'à côté de façon à pouvoir bien y répondre. Et surtout, naturellement, lorsqu'on les interrogeait devant leurs enfants, il ne fallait pas qu'ils fassent une triste figure devant les membres de leur famille. Sinon, ça allait bien une fois, ça allait bien deux fois, et à la fin, eh bien, le père qui nous fait le récit de ces missions catéchétiques nous dit qu'il n'y avait plus personne, parce que les paroissiens avaient fait littéralement la grève devant ce type de mission, et qui leur semblait tout à fait indécent et aussi tout à fait réduisant la religion à simplement un savoir. Alors, entre ces deux voies, il y en avait une troisième. Il y en avait une troisième, c'est celle que Muratori, dans son grand ouvrage de la Regolata Devotione, a développée. C'est celle aussi que le grand théologien, 50 ans plus tard, le grand théologien bavarois, Johann Michael Seiler, dans son Gebetbuch de 1806, a développé aussi sous une forme un petit peu plus philosophique, mais tout à fait comparable. Or, que disent ces théologiens qui sont aussi des hommes de pastoral? Seiler sera vicaire général, puis ensuite évêque de Regensburg, et Muratori est curé à Modène. Muratori écrivait: le point principal est qu'il est le plus utile de se rappeler, et celui-ci, je crois, en la vie éternelle. Voilà le terme, le but de l'humanité. Les devoirs de l'homme, c'est dans l'amour de Dieu et du prochain, dans notre vénération et notre confiance en Jésus-Christ, le Sauveur des hommes et leur médiateur avec Dieu, que consiste la vraie dévotion, l'essentiel et solide piété des chrétiens. Religion, par conséquent, très simple et fondée sur le Christ. Et Seiler aura une attitude tout à fait comparable lorsqu'il écrivait « Par Christ, Dieu s'est réconcilié avec le monde ». Formule très dense, hein. « Par Christ, Dieu s'est réconcilié avec le monde ». Il ajoutait « Ce n'est pas seulement l'enseignement de Christ, c'en est la base ». C'en est le fondement. Et utiliser une formule un petit peu elliptique: Dieu est en Christ, le salut du monde. Alors, vous me direz, tout cela est peut-être très savant. Peut-être très, très savant, mais en même temps, exprimé par Muratori au moins, extrêmement simple. Extrêmement simple, et l'intention de Muratori, c'était justement une piété destinée à tous, y compris aux plus simples. Or, si on reprend ces textes, on constate combien ils sont en décalage avec ce que je viens de vous dire, aussi bien à l'égard d'une religion qui fait bon marché finalement, utilise le culte des saints, sans trop regarder s'il est superstitieux ou non. Muratori, sur ce point, est beaucoup plus rigoureux. Et d'un autre côté, très différent aussi d'une religion très normative où il faut connaître le catéchisme par cœur. Muratori, comme Seiler, insiste sur l'essentiel et, au fond, les dogmes tridentins n'y insistent pas beaucoup. C'est une religion peu soucieuse d'encombrer la mémoire des fidèles, de multiplier leurs scrupules, comme pouvaient le faire les dogmes tridentins, et en même temps de la débarrasser de pratiques jugées inutiles ou superflues par l'un comme par l'autre, le culte des saints ou l'exagération du culte de la Vierge. On pourrait voir formuler ainsi chez ces deux auteurs les éléments de ce que on pourrait appeler un catholicisme des Lumières. Un catholicisme des Lumières, aussi bien valable pour les villes que pour les campagnes, et je me demande si nous n'avons pas l'expression côté catholique de ce que les Allemands appellent côté protestant la popular philosophie, puisqu'il s'agissait d'un enseignement destiné à tous et où les campagnes étaient au cœur des préoccupations. Mais justement, dans quelle mesure cet enseignement était-il accessible aux simples fidèles? Et là, nous trouvons un problème essentiel qui n'est pas résolu aujourd'hui et sur lequel je travaille avec ma petite équipe, mais il faudrait beaucoup d'autres travailleurs, c'est de savoir dans quelle mesure cet enseignement de cette voie moyenne se trouve répercuté dans les livres de piété qui se multiplient au XVIIIe siècle et dont nous savons fort bien que les missionnaires, lorsqu'ils allaient dans les missions, avaient un libraire à leur suite qui répandait ces ouvrages, quelquefois les donnait ou les faisait payer une somme extrêmement faible. Dans quelle mesure cet enseignement est-il passé dans le livre de piété qui, surtout dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et c'est peut-être une explication d'ailleurs de la descente des missions dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est qu'un relais existe, et ce relais, c'est le livre. Or, il est intéressant, naturellement, il est important de voir que le livre n'est plus, dans bien des régions de l'Europe, un objet qui est bon pour les villes. L'école de village existe, se multiplie, à partir des années 1720, 1730, 1750, et d'entre très nombreuses régions, c'est justement les livres de piété ou le catéchisme qui s'est, avec son appendice qui est constitué justement de pratiques de piété, et qui sert de béaba pour apprendre à lire aux enfants. Il y a donc là une recherche à faire, et qui nous permettrait de voir comment les idées nouvelles des Lumières ont pu être diffusées aussi, peut-être plus largement qu'on le pense jusqu'à maintenant, dans les campagnes, et dans les campagnes du moins, qui disposaient, dans les villages, qui disposaient d'une école primaire. Donc, au cours du XVIIIe siècle, les campagnes européennes ont connu une entreprise systématique et coordonnée de christianisation. Trois mots la caractérisent, la paroisse, le missionnaire, le livre. Mais comme toute entreprise humaine, elle n'aboutit pas exactement au résultat qui était escompté. Alors que les initiateurs de ce mouvement pensaient diffuser, et étaient partis pour diffuser les principes du Concile de Trente, eux ou leurs successeurs, confrontés aux dures réalités paysannes, à la misère, à la profonde religiosité aussi de ces populations longtemps négligées, furent peut-être les artisans de la radicale remise en cause du tridentinisme, comme on dit en Italie, que nous voyons à l'œuvre depuis deux siècles.